Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. Je suis accompagné de Yann Ajmo, que vous connaissez très bien. On va parler d'un programme qu'il a développé, qui est un programme de compétences avancées en soins intensifs, réanimation et échographie de chevet. Donc, pour en parler, je suis accompagné de Yann. Salut Yann.
Salut, ça va?
Ça va toi?
Oui, super content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de notre compétence avancée. C'est pas juste moi qui l'ai fait, là, c'est toute l'équipe des soins intensifs de notre hôpital, mais je suis en partie l'instigateur.
Fait que, juste pour donner crédit à tout le monde, on parle de Dr Philippe Rolla, Dr Marco Charneux, toi, Dr Philippe Saint-Arnaud et Dr Daniel Codd.
Exactement.
Est-ce que j'oublie du monde?
Non, ben, il y a Dr Francis Paquette qui est avec nous dans le Francophone, qui fait partie de l'équipe maintenant. Fait que oui, il fait partie du programme, là, mais il n'avait pas participé à la mise en place du début, mais on le compte pareil parce qu'il est dans l'équipe maintenant.
Ça m'amène à penser, parce que, bon, sans nécessairement vouloir en faire la promotion, ça m'a intrigué ton programme. Je voulais savoir comment t'es venu cette idée-là à toi puis à l'équipe.
C'est une très bonne question, ça, parce que ça fait longtemps que je veux faire ça. Moi, ça fait environ une quinzaine d'années là, que je pratique, puis dans mon programme de formation en résidence, j'avais le loisir d'avoir beaucoup de stages à option à l'époque en médecine familiale, puis on était capable de se former dans les choses qu'on aimait. Là. Les médecins de famille peuvent faire de l'obstétrique, de l'urgence, de l'hospite. C'est la même chose pour les soins intensifs. Donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de stages à option. J'ai fait un équivalent d'à peu près 6 mois, là, quasiment, on peut dire, supplémentaire en soins intensifs. Puis toutes mes gardes, je les ai faites aux soins intensifs de l'hôpital où est-ce que je faisais ma résidence. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que quand j'avais des résidents que je voyais qui avaient un intérêt, ça venait assez souvent, c'était récurrent, le fait de vouloir créer un genre de programme pour eux. Il y a eu la période où est-ce que je voulais faire ce qu'on appelait un R2B à l'époque, donc une troisième année en médecine familiale, mais spécialisée dans un domaine d'expertise, comme il existe déjà, par exemple, à l'urgence. C'était avec l'Université Laval à l'époque. Tout le monde avait l'air bien motivé, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement pour diverses raisons administratives. Ensuite de ça, au fil des années au Québec, bien, la médecine familiale a un peu perdu de sa l'omnipraticité, là, on appelle ça des omnipraticiens. Ça s'est très, très, très orienté. Ça a commencé à vouloir sortir des hôpitaux, puis ça s'est orienté vers le bureau en tant que tel. Donc, ça a été assez difficile là, de faire valoir ça. Puis, au fil des dernières années, l'idée m'est revenue. Puis, avec l'équipe des soins intensifs, j'ai ressorti des boulamites, mes vieux programmes que j'avais fait. Là, j'avais fait 2-3 jets différents de programmes qui duraient des fois 3 mois, des fois 6 mois, des fois 12 mois. Et on a décidé d'en faire un programme de 6 mois qu'on a mis sur pied dans la dernière année, puis dont on a notre premier résident qui a commencé en juillet 2020, donc en pleine période de COVID, là, finalement. On a réussi à le faire fonctionner pareil, malgré toutes les différences que le COVID a pu amener. Donc, essentiellement, c'est un peu ça, l'historique à ce niveau-là. Puis moi, en même temps, là, pour ceux qui le savent, je suis le président de la section des médecins aux soins intensifs omnipraticiens du Québec. Et ça a été quelque chose qui était cher dans ma tête, dans mon esprit, puis dans ce que je voulais faire de ça pour aider les médecins, justement, qui, au fil des années, bien, la formation s'est un peu étiolée en termes de formation et de compétences hospitalières, si on veut, de compétences surtout en soins critiques. Donc, de cette façon-là, vu que les omnipraticiens au Québec occupent à peu près 60 à 65 des unités de soins intensifs du Québec, ben c'était un peu un non-sens qu'il n'y avait pas de formation solide, là, si on veut, à ce niveau-là. Puis, ça fait pas longtemps non plus que les formations en soins intensifs existent de façon très, très, très structurée. À une époque, c'était qui se sentait à l'aise de faire des soins intensifs qui faisait des soins intensifs. Si je me rappelle bien, au Québec, je pense que la formation est là depuis un certain temps, mais la reconnaissance du programme des réels intensivistes spécialistes est seulement depuis 2016. Donc, c'est très, très, très hétérogène, ces formations-là. Fait qu'on trouve important de faire une formation-là. Puis, ce n'est pas uniquement pour les médecins de famille, là. C'est pour tout résident qui a complété un 2 ans de sa formation, donc incluant les 2 ans de médecine familiale, mais ça peut être 2 ans de n'importe quel programme de spécialité, qui veulent vraiment venir développer les compétences. Ça s'appelle les compétences avancées en réanimation cardio-respiratoire et en échographie de chevet. Donc, des soins critiques avancés de pointe avec technique invasive, là. Donc, c'est pas mal ça. C'est un petit peu ça l'historique.
Fait que si je comprends, dans le fond, l'objectif, c'est pas nécessairement sur une pour une spécialité en tant que telle, mais vraiment plus pour développer des compétences.
Exact, c'est ça. C'est pas un fellowship, c'est pas une formation de ce type-là. C'est vraiment un programme de compétences avancées qu'on a essayé de mettre sur pied pour venir chercher la grande variété des besoins qu'un médecin dans une unité de soins intensifs, par exemple, en région ou en centre hospitalier de différents niveaux, pourrait avoir besoin pour être capable de se débrouiller le plus possible par lui-même en fonction des besoins des patients.
Fait que là, c'est sûr qu'on va parler plus de la situation au niveau du Québec. Est-ce que tu sais si un programme similaire existe au Québec?
Je pense que l'Université de Sherbrooke, ce qu'on m'a apporté à mon attention il y a très, très peu de temps, là, quelques jours, aurait un programme un peu similaire. Mais là, je m'avance peut-être, il faudrait aller voir, il faudrait regarder, mais je pense que Sherbrooke aurait un programme à ce niveau-là.
Pour les auditeurs qui sont hors Québec, quand on parle de Sherbrooke, on parle de l'Université de Sherbrooke, qui a un programme de médecine ici au Québec. Fait que là, au Québec, il y a peut-être un programme, mais t'as-tu entendu parler là, à travers le FOM puis à travers les contacts qu'on a, s'il y aurait des programmes similaires un peu ailleurs dans le monde?
La plupart des gens qui veulent faire une résidence en soins intensifs pour devenir un intensiviste spécialiste, ils passent par les troncs communs habituels, là, la médecine interne, la chirurgie, l'urgence ou l'anesthésie. En général, c'est comme ça. Puis les programmes de formation, c'est 1 à 2 années, en plus d'un fellowship. Pour ce qui est des autres pays, j'avoue que je me suis pas vraiment informé à ce niveau-là, parce que dans les faits, dans ma vie de tous les jours, dans la pratique, puis pour tous les médecins que je représente au Québec, ben on n'avait pas cette possibilité-là. Les omnipraticiens, eux, avaient pas le droit d'aller dans ces programmes de formation-là, ce que j'ai toujours trouvé un peu malheureux, mais bon, les règles sont les règles fixées par le Collège royal au Canada, c'est ça qui est ça. Donc, d'une certaine manière, je me suis pas vraiment informé de ce qui se fait ailleurs, mais je suis presque sûr qu'il y a des programmes de formation comme ça. En fait, ce qu'on a surtout essayé de faire, c'est que tout ce qu'on a jugé important, là, de la bronchoscopie à l'échographie, aux mises en place de techniques invasives, à la gestion des chocs, toutes ces choses-là, on les a essayé de les regrouper dans un court laps de temps avec des résidents qui avaient déjà une compétence certaine dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment un programme de peaufinement, si on veut, des compétences et des connaissances.
Fait que juste pour terminer sur l'existence d'un programme similaire ou non au niveau du monde, ailleurs dans le monde, j'invite les auditeurs là, qui seraient hors Québec, si vous avez des programmes où vous avez de l'expérience ou peut-être juste nous le laisser savoir pour qu'on puisse diffuser l'information également, là, c'est pas par manque de volonté, mais plus peut-être par manque de connaissances, fait que on serait vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous faites ailleurs dans le monde, c'est quoi les formations, c'est quoi les programmes pour se perfectionner et autres, là, on est vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qui se fait.
Oui, absolument. Je pense que ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils font, puis voir à côté de ce que nous, on fait. Des fois, juste pour améliorer notre propre programme en regardant ce que les autres font, on apprend des autres, puis c'est le but du fond, là.
Exactement. Puis là, si je veux revenir un petit peu au programme, tu m'as parlé de bronchoscopie, gestion des chocs, échographie. Fait que tu pouvais faire peut-être un survol là, du programme, là, juste pour me donner une idée là, de qu'est-ce que vous voyez, règle générale, là, sans rentrer trop dans les détails non plus, là.
Ben, en fait, tu sais, on essaie de rendre le résident autonome en termes cliniques, hein, ça c'est sûr. Le gros du travail, c'est qu'ils vont faire à peu près 80% de leurs tâches en clinique et en enseignement auprès des résidents juniors en dessous d'eux, puis un 20% en recherche. Mais pour ce qui est des compétences spécifiques, ben, naturellement, je pense que d'avoir une prise en charge autonome des patients instables, l'hémodynamie respiratoire, les arrêts cardiaques, c'est la base, là, hein? Naturellement, quand tu fais des soins intensifs, il faut que tu sois totalement à l'aise avec ce genre de patients-là, mais surtout d'être capable de les prendre en charge et non pas d'être à côté du patron, du médecin en chef et d'écouter ce qu'il dit puis de faire ce qu'il dit. Vraiment de prendre le lead. Ça, c'est la première compétence qu'on a fait. Après ça, toutes les échographies avancées là, au chevet qu'on veut faire, On veut pas quelqu'un qui sait pas comment regarder la veine cave, là, ni regarder un cœur, là. Donc, on veut quelqu'un qui a déjà une base là-dedans. Puis là, on va apprendre, on va lui apprendre l'approche, par exemple, de congestion, Vexus, les Doppler hépatiques, portal rénal, l'évaluation des valves tricuspidiennes, de l'hypertension pulmonaire, tout ce qui est Doppler transcranien, l'évaluation des nerfs optiques, là. Tout ce genre d'échographie avancée-là, incluant l'ETO aussi, l'échographie transœsophagienne, mais percode. Donc, pour être capable de bien planifier et d'organiser notre massage cardiaque et de l'avoir de bonne qualité, avoir la compression à la bonne place. Ensuite de ça, les trachéotomies percutanées au chevet avec le guidage bronchoscopique, tous les drainages thoraciques de tout genre avec tous les types de drains, donc des pigtails au talquick au drain thoracique, les drainages d'acide de collection intra-abdominale, les drainages de vésicule biliaire lorsque les patients sont en choc septique sur une cholécystite aiguë, les installations de pacemaker endovasculaires, ceux qui sont temporaires là, de type Swan Pace, les péricardiosynthèses d'urgence au diagnostic, tout ce qui est expérience en thérapie de remplacement rénal. Nous, on a de la SLED, là, donc c'est ça qu'on enseigne aux résidents, les cardioversions électriques, puis tous les modes de ventilation un petit peu plus compliqués. Par exemple, comme l'APRV là, qui nous a été très, très utile là, en termes de COVID. Là. Donc, c'est un petit peu ça où est-ce qu'on va dans les détails puis qu'on trouve que dans un 6 mois, on est capable de bien enseigner aux résidents. Fait que c'est ça pour nous, les compétences spécifiques et avancées qu'on veut enseigner. L'emphase est vraiment mise sur la réanimation naturellement puis être à l'aise et surtout l'échographie systématique et pas juste avancée, mais systématique de tous nos patients. Là. L'approche échographique.
Là, tu m'as parlé de techniques invasives puis beaucoup d'échographies. J'ai une question peut-être un peu philosophique pour toi. Ça m'amène à penser un peu, quelle place tu vois, selon toi, là, de toutes ces technologies-là, des techniques invasives, l'échographie, dans la place et la prise en charge dans les soins qu'on fait aux patients en soins critiques?
Quelle place? Ben, je pense que la place est omniprésente et elle va l'être de plus en plus. Je pense que tu disais que c'est une question philosophique, effectivement, parce que il y a des en échographie, comme dans n'importe quelle technique, ben il y a des early adopters, là, des je sais pas comment dire en français, là, des adopteurs précoces, si on veut, des utilisateurs précoces peut-être. Je pense que moi et l'équipe avec qui je travaille, ben on est comme ça. On est là, puis on en fait depuis, moi, je fais de l'écho depuis 2008, alors même que c'était à peine reconnu et surtout accepté par les différentes autres spécialités que j'avais l'impression qu'on jouait dans leur territoire. Avec raison, on jouait dans leur territoire, mais c'était dans un but d'améliorer les soins aux patients. Je sais que lorsque je fais de l'échographie sur un patient, tu sais, il y a un retour de balancier à ça. À un moment donné, on a commencé à faire de l'échographie pour un peu n'importe quoi. Puis avec le temps, bien, on commence à se rendre compte de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça prend du temps, mais il y a de la littérature de plus en plus. Tu m'as envoyé quelques articles là, il n'y a pas longtemps qui montraient un petit peu des trucs de supériorité en échographie. Bien, c'est des choses qu'on savait intuitivement. Maintenant, ça commence à sortir. Alors, la place sur un patient en choc ou instable, ou même sur un patient qui est stable, mais critique encore, pour faire l'évaluation quotidienne ou l'ajustement fin, là, le fine-tuning de ces patients-là, c'est plus que primordial et ça vient améliorer. Ça enlève ce que j'appelle aux résidents le PIF effect. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le PIF effect, ben, je vous donne l'exemple de comment on traitait des chocs septiques à l'époque. Ben, on donnait le 30 à 40 cc kilo, puis après ça, on mettait un peu d'amine. Puis on demandait à l'infirmière, ben, urine dessus, non, ben, on remet un peu de liquide. Ah, mais là, les pressions sont un peu améliorées, oh, puis on rebaissait, on remonte un peu les amines. Donc, on faisait ça à la voix comme je te pousse. Là. Ben, l'échographie est venue un peu standardiser ça, puis réduire la quantité volémique qu'on faisait. Donc, ça, c'est un des éléments importants. Alors, est-ce que c'est important pour nous? Puis quelle place que je vois? Bien, je la vois primordiale. Puis en plus de toute la sécurité que ça vient donner lorsqu'on fait des techniques. Je veux dire, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un pneumothorax dans notre unité depuis 10 ans là, à la suite d'une voie centrale. Là. Donc ça, c'est juste bon pour les patients.
Oh non, effectivement, on s'en est parlé en ronde, là, surtout pour l'échographie qui commence à se démocratiser même. On pourrait quasiment parler d'utilisation de l'échographie comme évaluation physique par quasiment tous les praticiens maintenant qui vont faire des soins critiques là, dans les prochaines années, quasiment en train de se questionner ce que les infirmières devraient en faire aussi, ce que le pharmacien même, à la limite, pourrait en faire pour suivre la thérapie des médicaments, la réponse de la thérapie aux médicaments. Fait que j'étais
Ben, cette
curieux.
réponse-là, c'est oui. Tout le monde devrait en faire parce que ça va aider. Les infirmières vont être capables d'aller trouver leurs veines, par exemple, plus facilement. Les pharmaciens, comme tu as dit, peuvent ajuster les médicaments. Ça va prendre du temps, mais effectivement, c'est ça. Ça remplace le stéthoscope, mais encore plus que le stéthoscope.
Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que je sais pas si tu te souviens, il y a une couple d'années, Dr. André Deneau était venu présenter justement sur l'échographie, puis qu'il avait mis le. Écoute, ça me marque encore. Il avait mis une image d'un stéthoscope, puis il avait dit stéthoscope, point d'interrogation. Parce qu'il disait scope veut dire voir. Ce qu'on utilise présentement, c'est un stéthophone.
Ouais,
Il dit un
exact.
vrai stéthoscope, c'est pour voir, donc c'est une machine d'échographie.
Tout à fait.
Ça m'a marqué, tu vois,
Ouais.
encore aujourd'hui, je t'en parle quelques années plus tard, là.
Ouais. Mais tu as tout à fait raison. Puis il dit aussi, hein, quand on discute avec lui, dans, mettons, entre deux congrès, entre deux conférences dans un congrès, quand il vient présenter chez nous. Mais c'est effectivement ça. Puis la beauté de l'échographie, c'est que on ne peut pas dire que c'est sans fin, mais c'est presque sans fin. Quand je regarde la courbe d'apprentissage d'un échographiste, puis c'est ce qu'on veut inculquer là, à nos résidents là, qui passent par chez nous. Là, on parle de notre programme de compétences avancées, mais en général, on a des résidents qui viennent faire un mois chez nous en stage option. Puis dans ce mois-là, on fait tout pour essayer de les rendre autonomes en termes d'échographie. Mais l'échographie, ça te prend par palier. T'sais. C'est des courbes d'apprentissage par palier. Donc, tu apprends deux, trois trucs, tu vas les appliquer, puis tu finis par les maîtriser. Quand tu as fini par les maîtriser, tu te rends compte que wow, il y a d'autres choses encore plus qui vont t'améliorer dans ton fine-tuning. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, le travail d'un médecin de soins intensifs, ce n'est pas seulement de garder des gens en vie puis de les sauver coûte que coûte, mais c'est de les amener à s'améliorer. T'sais. C'est le travail des résidents de les garder en vie jusqu'au matin. Mais le travail des médecins aux soins intensifs, c'est de les garder en vie puis de les faire progresser puis de les faire sortir des soins intensifs. Puis pour ça, c'est le fine-tuning. Puis l'échographie est un élément indissociable et indispensable à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que tu apprends par palier. Tu progresses par palier puis d'un coup, tu atteins un certain plateau puis tu dis, oh, qu'est-ce que je peux apprendre de plus qui va venir améliorer ça? Ben, c'est un peu ça qu'on veut faire avec notre programme, avec tout ce que j'ai donné tantôt comme échographie encore plus poussée. Puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ta section-là que je t'ai expliquée tantôt en termes d'échographie, ben, elle va avoir trois lignes de plus avec trois nouvelles techniques de plus que je connais même pas encore ou que j'imagine même pas que ça va être pertinent pour moi encore.
Ah non, c'est drôle que tu parles de fine-tuning, puis tu sais, des garder vivants, mais que là, on est rendu à un stade de fine-tuning pour les sortir des soins, mais les sortir en bon état. Tout ce qui est le post-intensive care syndrome, tu sais, dans le fond, de prise en charge, pour essayer de minimiser ça, puis essayer de le ramener à son état le plus proche possible de son état de base pour qu'il puisse reprendre une vie sans trop être amoché par le séjour aux soins. T'sais. Ça déborde un peu, là, mais je trouve ça
Non, mais
très intéressant parce que
ça va avec parce qu'on l'enseigne aux résidents.
je trouve ça très intéressant qu'on peut utiliser la technologie aussi pour nous aider à essayer de minimiser ça, là. En tout cas, chapeau.
Absolument. Ouais, puis, tu sais, si on regarde présentement avec le COVID, on voit que nos patients restent longtemps aux soins intensifs. On voit qu'ils font des atteintes sévères, autant cognitives que neuromusculaires, que rénales, que à peu près tous les systèmes qui sont touchés. Ben, si avec les techniques comme par exemple l'échographie, ben, on est capable de réduire ça un petit peu d'une façon ou d'une autre, ben on va le faire. Puis si on peut réduire la durée d'hospitalisation par des techniques faites de meilleure qualité, les techniques d'accès veineux ou de peu importe ce qu'on fait ou de drainage de façon précise et avec peu de risques, ben, on va le faire aussi parce que ça va améliorer la qualité des soins. Puis on n'a pas besoin d'avoir une étude pour nous dire que de mettre un drain thoracique sur un patient qui malheureusement est anticoagulé puis que tu n'as pas le temps d'arrêter l'anticoagulation, ben tu vas juste améliorer la sécurité de ton patient si tu le fais sous guidage échographique. C'est un peu ça.
Ce qui m'amène à penser, et là, on a parlé un peu là, du programme, de comment ça t'est venu, cette idée-là, un peu comment vous l'avez mis en place. Mais moi, je suis curieux de voir, c'est surtout pour nos auditeurs là, qui seraient, qui nous entendent, qui nous écoutent parler, puis qui se disent, écoute, ça a l'air intéressant de partir ça chez nous. C'est quoi les défis auxquels tu as fait face quand tu as développé ça?
Bien, naturellement, pour ceux qui vont être intéressés de regarder notre document, on va le mettre sur les notes de la balado. Vous allez voir que, bon, c'est un programme qu'on est en train d'essayer de faire accrédité par une université au Québec, naturellement. Pour l'instant, c'est un gros stage à option de 6 mois qu'on offre, puis c'est tout à fait correct. Les défis, bien, premièrement, il faut que toute l'équipe soit on board. Il faut que toute l'équipe de soins intensifs pratique d'une façon assez généralement pareille, soit en général dans la plupart des unités de soins intensifs, c'est ce qu'on retrouve. Mais il faut aussi que le reste de l'hôpital soit avec nous. Parce que la manière qu'on a fait ça, puis la manière que vous ferez ça dans vos milieux, bien nous, on voulait que notre résident ou notre résidente passe en radiologie, apprendre à peaufiner ses compétences en scan, en microbiologie, en anesthésie. Il y a plusieurs demi-journées qui sont données en dehors de l'unité, des stages hors unité sur le 6 mois pour faire ça. Il faut que vous ayez un certain niveau un peu en recherche ou en capable de faire des case reports parce que ça fait partie un peu du cursus qu'on a mis en place. Donc, il faut qu'il y ait une volonté générale de tout l'hôpital pour supporter ce genre de programme-là. Ça fait qu'en somme, c'est pas mal ça, le défi. Puis surtout, je pense qu'il faut un résident hautement motivé parce que le résident qu'on a actuellement, c'est peut-être parce que c'est la COVID, mais on le fait travailler vraiment, vraiment fort. Puis il fait bien ça, là. Il fait bien ça. Je rassure tout le monde, on respecte les règles de la FMRQ, là. Ça, c'est sûr, là. Mais la Fédération des médecins résidents du Québec, là, pour ceux qui se demandent c'est quoi. Mais d'une certaine manière, c'est un... Il faut quelqu'un d'extrêmement motivé. Puis je pense qu'à la base, en plus d'avoir l'équipe médicale motivée, il faut que le résident ou la résidente qui est avec, qui est dans le stage, il faut que celui-ci ou celle-ci soit très, 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 très motivé. C'est ça les gros défis, je pense.
Mais ça revient, tu parles de motivation, mais tu sais, dans le fond, un peu, ben, nos auditeurs aussi le savent, tu sais, tous ceux qui font des soins, c'est tout à la base du monde motivé.
Je pense que oui.
fait que tu sais, je pense que t'es les candidats qui vont faire ça ou ceux qui sont motivés à poursuivre, ben c'est ce genre de voie qu'ils peuvent utiliser là, pour finir vraiment leurs compétences. Fait que tu sais, c'est un peu ça, je pense, de ce que je comprends, le praticien qui va sortir de ce programme-là, c'est quelqu'un qui va être compétent en réanimation, en technique très avancée, en échographie. Puis toi, dans ta tête, là, quand t'as parti ce programme-là, quel genre de praticien tu voyais à la fin de ce qui sortait de ce cursus-là?
Ben, je voulais avoir quelqu'un qui était beaucoup plus dégourdi que ce qu'il était à l'arrivée. Et en général, c'est assez facile, surtout si c'est des résidents en début de cursus dans leur formation, parce qu'ils ont passé dans plein de stages, mais ils n'ont pas fait un 6 mois dans aucun stage de façon régulière. En général, tout dépendant de leur programme de formation. Je veux surtout un résident qui va être autonome, puis qui va être à l'aise, puis qui va apprendre assez de nouvelles choses pour être capable de venir améliorer son milieu. C'est un peu ça. Dans notre milieu, on a la chance, nous, aux soins intensifs, d'être très autonomes. Je sais que ce n'est pas tous les milieux qui ont cette autonomie-là. Des fois, il y a des chicanes territoriales entre les groupes de spécialistes, puis c'est correct comme ça. Chaque hôpital fonctionne de sa manière. Nous, on a une très, très grande autonomie, ce qui nous permet d'enseigner beaucoup de choses par nous-mêmes aux résidents. On est conscient que lorsque ces résidents-là vont arriver dans leur milieu respectif, ils ne pourront peut-être pas faire autant de choses qu'ils ont fait avec nous. Peut-être qu'ils vont pouvoir faire d'autres choses, mais au moins, ils vont avoir développé la capacité de le faire, la capacité d'implanter des nouvelles procédures dans leur milieu pour améliorer. Et ce qu'on veut éviter, c'est que dans une unité, il y ait ce qu'on appelle du « inbreeding ». Donc, ça se traduit mal en français, là, mais c'est un peu le principe des « fellowships ». Donc, c'est pour ça que les gens vont chercher des compétences extérieures puis les ramènent dans leur milieu. Alors, moi, c'était ça le but, de montrer que la médecine de soins intensifs, c'est le fun, c'est excitant, c'est important, c'est intéressant, c'est sans fin, mais surtout qu'on va être capable d'apporter une compétence qu'on va être venu chercher chez nous, vu qu'on est assez développé et avancé dans le côté ETT, ETO auprès des patients, puis de notre fonctionnement à nous dans notre hôpital, qui est un peu un rapid response team en permanence, de devenir très bon à ce niveau-là, très efficace, très, très assidu dans ce genre de suivi de patients-là et de le ramener chez eux. Donc, c'est comme ça que je voyais ça.
Dans le fond, c'est vraiment une super vision. Puis, écoute, il y a une question qui me vient, peut-être, je ne sais pas si on pourrait terminer là-dessus. On parle de programme d'enseignement. Ça me fait réfléchir. Toi, Yann, comment tu vois l'enseignement, que ce soit médical, paramédical, là, vraiment l'enseignement des soins intensifs là, dans les 5-10 prochaines années? Comment tu penses qu'on peut améliorer cet enseignement-là?
C'est une très bonne question. Je pense que on a beau lire tous les articles du monde, on a beau aller dans tous les congrès du monde, si t'es pas les mains dedans, hands-on, il n'y aura rien qui va s'améliorer. Je pense que d'avoir des connaissances théoriques, c'est excellent, il en faut, mais si tu le fais pas, ben tu développes rien. Alors moi, je crois beaucoup à la compétence par approche, la compétence par approche autant clinique que théorique, là. Mais je pense que la seule et unique manière, c'est d'avoir les résidents avec toi le plus possible, ou d'autres médecins qui ne sont pas des résidents puis qui veulent avoir de la formation. On en a des fois qui viennent dans notre unité, qui viennent passer une semaine, 2 semaines avec nous, qui sont des médecins en pratique depuis 20 ans, puis qui viennent apprendre des nouvelles choses qu'ils veulent parfaire ou qu'ils veulent améliorer ou qu'ils veulent se remémorer des fois. Je pense que c'est la seule et unique manière. En fait, j'ai toujours pensé que on va être un médecin, un patron, comme on appelle nous au Québec, là, on va être un patron comme on est un résident. Si on est un résident motivé à vouloir apprendre plein de choses, on va rester comme ça toute notre vie. Si on était plutôt un résident qui lay back et relax, là, et ça se peut qu'on perde le fil à un moment donné. Puis ça va tellement vite que si on ne garde pas le beat, on va finir en retard. Puis quand on finit en retard, ben, c'est ça que ça devient des médecins, des fois, qui sont plus dangereux ou qui font ne vivre que sur leur expérience et non pas sur des nouvelles compétences. Alors, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut continuer à faire de la formation continue. Puis, à toutes les fois qu'on a l'impression qu'on a atteint un certain niveau, il faut se questionner à savoir qu'est-ce qu'on a besoin de plus. Puis, si nous, par notre programme, on est capable d'apporter ça à quelques médecins dans les prochaines années, ça va être parfait. Comment ça va être dans 5 ans? J'ai aucune idée. Le COVID est venu nous montrer que la formation par Zoom, par Internet, elle est très efficace. Ce que nous, on fait là, hein, depuis presque un an et demi maintenant là, avec nos podcasts, ben, ça aide, mais c'est juste des petites portions pour venir faire un tout. Mais si tu ne vas pas au chevet d'un patient, si tu ne masses pas toi-même le patient, si tu ne prends pas ta sonde d'écho, tu ne la rentres pas dans la bouche du patient ou sur la poitrine du patient, ben, tu n'apprendras rien au fond. Puis je parle d'écho, mais c'est bon, même pour
À
tous
peu
les types
près
de
tout, là,
techniques.
ouais.
Oui, exact.
Ouais,
C'est comme
excellent.
ça. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique, malheureusement. J'aimerais ça. Il n'y en a pas.
Je
Faut
pense que
se
tout le
forcer, il
monde.
faut apprendre tout le temps. Pas pour rien que notre collège, le Collège des médecins du Québec, est rendu super exigeant avec nous, là. C'est les 250 crédits par 5 ans parce qu'il a bien vu que les connaissances décuplent dans tous les domaines. Puis il faut rester à jour. Puis si tu laisses ça au bon vouloir des médecins, oui, il y en a qui vont le faire, mais on a besoin d'une structure. Puis cette structure-là, bien qu'elle est lourde, ben, elle est nécessaire.
J'ai juste le terme leitmotiv là, en tête, mais j'ai vu ça quelque part, puis ça me laisse réfléchir. Chaque jour où tu apprends pas, c'est une journée perdue.
Exact.
Hein? En anglais, ils disent learn every day. La technique LED. Je trouve que ça englobe bien, en tout cas, ma vision à moi de l'enseignement, puis de l'apprentissage, puis un peu tout ce que tu viens de résumer, là. Puis j'encourage toi, moi et tous les auditeurs, là, vraiment à. Au moins apprendre une chose à chaque jour. Comme ça, tu peux dire que ta journée a été utile et a servi à quelque chose.
Exactement. Puis, gênez-vous pas pour écouter nos podcasts si vous voulez apprendre une chose par jour. On va, au
Ouais,
cours, je pense que dans la prochaine année, dans un de nos mandats, ça va être de mettre sur notre chaîne YouTube quelques techniques, quelques trucs un peu plus compliqués, invasifs, pour essayer de vous faire, vous améliorer au niveau des différentes techniques, autant échographiques que techniques invasives, là. Donc, ça va pouvoir aider les résidents qui veulent se remémorer une méthode de fonctionnement. Mais oui, je pense que de prendre le temps d'apprendre une nouvelle chose régulièrement au travail ou à la maison, ça va faire de nous tous des meilleurs médecins. Puis au bout de la ligne, c'est uniquement pour les patients, là. C'est eux qui vont profiter. C'est ça.
tout à fait
Et
d'accord avec
c'était
toi.
le fun, hein? Merci, on a comme un peu dévié, comme d'habitude, quand on parle ensemble. Mais Je répète qu'on va laisser dans les notes de la balado le document de travail là, qu'on utilise, qu'on donne à nos résidents. Puis si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à nous écrire, on va être capable de répondre. Puis si jamais vous avez des résidents que vous considérez comme étant des futurs superstars, puis vous voulez nous les envoyer, ben gênez-vous pas. On en prend deux par année, un par 6 mois, de juillet à décembre, puis de janvier à juin. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Super. Hey, merci beaucoup, Yann. C'était vraiment, vraiment intéressant.
Plaisir.
Toujours un plaisir de jaser avec toi. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose, au moins. Comme ça, on a appris au moins une chose dans sa journée. Sur ce, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, notre chaîne YouTube et tous les autres. Si vous voulez poursuivre la discussion sur Twitter, Facebook, rejoignez-nous. On vous attend, on a très hâte de discuter avec vous. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Dans ce, vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.